Chapitre 15. Mère, mère. Les voiles blanches de l'albatros se gonflaient fièrement, tel un animal bombant le torse, tendant chacun de ses muscles, prêt à affronter tous les éléments. Des éléments bien calmes pour l'instant. Le voilier glissait sur l'eau du fleuve paisiblement. Le courant l'entraînait doucement. Seul le vent s'engouffrait parfois par bourrasque dans la vallée et faisait claquer les cordes, les voiles, l'étendard du grand cerf et les cheveux d'Agnel. Depuis le départ de l'albatros, le garçon avait passé presque tout le voyage perché en haut du grand mât, n'en redescendant que pour manger et dormir. Il s'installait dans le panier d'osier accroché au sommet du mât, la hune, avait précisé Solario, à la façon d'un rapace qui contrôle son territoire sans quitter son nid. Agnel se sentait léger, ainsi posté 35 mètres au-dessus du pont du voilier. Il ressentait enfin cette liberté qu'il croyait réservée aux oiseaux. L'air vif qui fouette les yeux, le visage, les cheveux, cette impression de planer, de dominer tout ce qui l'entourait, de voir à l'infini, sans arbres, sans falaises, sans collines pour masquer l'horizon. Haut, si haut, plus haut même que les oiseaux. La plupart des mouettes qui suivaient le bateau volaient en rasant le pont, dans l'espoir de chipper un reste de poisson fraîchement pêché. Dès qu'Agnel apercevait quelque chose au loin, il le criait au marin de garde sur le pont, qui aussitôt transmettait l'information à Braza, Osman et Solario. Braza tenait la barre avec concentration. Sa petite taille le handicapait un peu, mais ses bras courts et musclés pouvaient tourner la roue pendant des heures et des heures sans jamais se fatiguer. Osman notait leur progression minute après minute, traçant un trait bleu sur la grande carte du fleuve. D'après lui, le voilier avait déjà parcouru plus des trois quarts du trajet. Si tout allait bien, ils atteindraient la mer le lendemain matin, après la pause de la nuit. Solario écrivait chaque détail dans son carnet. Il avait lu que les explorateurs procédaient ainsi, de Christophe Colomb à Vasco de Gama, qu'il consignait tout ce qu'il découvrait dans le monde nouveau où il s'aventurait, chaque arbre inconnu, chaque fruit, chaque nouvelle odeur ou saveur. Il avait demandé à Leonarda de dessiner au crayon à papier tout ce qu'elle voyait, puis il rangeait les dessins entre les pages de son cahier. Leonarda était douée, rapide. Ses esquisses étaient toutes sublimes, des maisons blanches sur les berges du fleuve, des clochers d'église au-dessus des lignes d'arbres, des canaux abandonnés, amarrés à des pontons branlants, des reflets de saules pleureurs au-dessus de l'eau, des familles de cygnes glissant d'une rive à l'autre. C'était Leonarda qui avait dessiné l'œil d'Horus sur la coque de l'albatros. Solario le lui avait demandé, en grand secret, n'en parlant qu'à Agnel. L'œil d'Horus était un signe de protection. Il porterait bonheur au voilier et à son équipage.
« Une chapelle !»
cria Agnel.
« À 3 heures et un petit village autour. Au-dessus, j'aperçois les ruines d'un château. Impossible de voir plus loin. Le fleuve tourne encore une fois. »
Le fleuve semblait se résumer à une série de méandres, au point que les marins, les gabiers, préférait dire Solario, finissaient par croire qu'on tournait en rond, ou même que l'albatros remontait le fleuve en sens inverse.
« Encore un port !»
cria Agnel.
« Minuscule, celui-là ! Juste 2 ou 3 bateaux abandonnés ! Et une longue plaine derrière !»
Osman traçait, Solario notait, Leonarda dessinait. Agnel était fasciné à chaque nouveau méandre par la façon dont les hommes avaient construit leur vie le long de l'eau. Tout semblait organisé autour du fleuve. Non seulement les maisons, qui le plus souvent le bordaient, mais aussi les ponts qui le franchissaient, les routes bitumées qui le suivaient, les grandes églises qui le surplombaient, des abbayes, avait expliqué Solario, les bâtiments de tôle et de briques hérissées de cheminées qui le bordaient, des usines, selon Solario, et de temps en temps séparées par de profondes forêts, des villes, comme la leur, mais des villes désertes. Depuis que l'albatros avait quitté le quai du Point du Jour, une unique obsession occupait l'esprit de chaque marin. Traquer la vie. Il n'était pas déçu. La vie grouillait de partout, comme si la terre avait été rendue à la nature. Solario n'avait pas le temps de tout noter, ni Leonarda de tout dessiner. Souvent, des chiens errants couraient sur les berges en aboyant en direction du voilier. Ils le poursuivaient autant qu'ils le pouvaient, avant d'abandonner, fatigués. Dans les champs, les vaches broutaient par troupeaux entiers, levant une tête indifférente, à peine étonnée au passage du bateau, puis continuaient de ruminer. Dès que le paysage s'aplanissait, souvent à l'opposé d'une rive à falaise, la plaine alluviale, expliquait Solario, des hordes de chevaux sauvages surgissaient. Il suffisait d'un cri poussé par un marin pour que tous se mettent à galoper. Les ados n'avaient jamais rien vu de plus beau, pas même la course des biches dans la forêt. Au loin, les pelouses des falaises paraissaient piquetées de nuages, mais dès que l'albatros s'approchait, les marins réalisaient qu'elle servait de pâturage à des milliers de moutons, broutant en équilibre miraculeux sur des pentes incroyablement abruptes. La vie était partout, redevenue sauvage, comme libérée de toute présence humaine. Ils n'avaient découvert aucune trace d'autres enfants. C'était évidemment ce que tous cherchaient, aussi bien Agnel en haut de son perchoir que les marins appuyés au bastingage en suçant des lollipops, et même les soldats, Novak, Helios, Clark ou Noélie, qui n'avaient rien d'autre à faire que surveiller les rives et affûter les carreaux de leur arbalète. Heure après heure, méandre après méandre, les villages déserts succédant aux grandes villes abandonnées, les champs de vaches aux falaises à moutons, on s'ennuyait sur le voilier. Ils avaient l'impression d'être comme ces poules en cage qu'ils avaient embarquées sur le bateau pour avoir chaque jour des œufs frais. Les ados n'étaient pas habitués à si peu bouger. Ainsi, c'était cela, l'aventure, tourner en rond sur un pont.
Imaginez, expliquait Solario pour leur remonter le moral. Imaginez ces explorateurs qui traversaient l'Atlantique, le Pacifique. Ils ne se contentaient pas de descendre un fleuve près de chez eux. Ils tournaient autour du monde, pendant des mois, des années.
Un jour, pensait secrètement Solario, il faudra l'explorer à nouveau, ce monde entier. Même si aucun ado, à part peut-être Agnel, Braza et Haussmann, n'en voit l'intérêt. Plus les jours passaient, moins les marins étaient concentrés. Ils avaient tant cherché à repérer la trace d'un être humain sur les rives du fleuve, au détour d'une rue, au sommet d'un clocher, derrière une fenêtre, chevauchant un cheval, rappelant un chien, nageant, courant, approchant, fuyant. En vain. Ils n'y croyaient plus. Ils s'étaient rendus à l'évidence. Seuls les animaux, en dehors de la ville, avaient survécu. Ils étaient seuls au monde.
Mère ! Mère !
Cria Agnel. L'albatros, après s'être amarré la nuit à un vieux ponton perdu en pleine forêt, était reparti dès les premières clartés matinales. La plupart des marins dormaient encore. Les jours étaient longs, à force de ne rien faire sur le voilier. Alors on étirait les nuits et le sommeil autant qu'on le pouvait. Seul Agnel, dès l'aube, grimpait dans la hune, comme s'il avait pour mission de décrocher la lune et les dernières étoiles pour qu'enfin la boule rouge du soleil puisse accepter de se lever.
« Mère ! Mère !»
répéta à tue-tête l'ado oiseau. Cette fois, tout le monde à bord se réveilla dans un délicieux brouhaha. Cléa et Solveig sortirent sur le pont en pyjama. Novak et Helios surgirent à l'inverse, torse nu. Helios, ses lunettes de soleil sur le nez comme s'il avait dormi avec, et Novak, son arbalète en bandoulière, au cas où une baleine, un requin ou une sirène auraient surgi. La première chose que tous sentirent fut l'odeur de sel. Ils n'avaient jamais respiré une telle atmosphère. Elle leur brûlait le nez, la gorge.
C'est l'iode ! Les rassura Solario. « Ce n'est pas dangereux, bien au contraire !»
Il s'empressa de noter chacune de ses impressions sur son cahier d'explorateur. Haussmann, à l'avant du voilier, tenait sa carte dépliée, bien serrée entre ses mains, flottant comme un drapeau.
« L'estuaire de la Seine »
annonça-t-il. Après leur nez, C'était au tour de leurs oreilles et de leurs yeux d'éprouver d'incroyables sensations nouvelles. Tous entendaient un grondement puissant et régulier. On aurait cru le ronronnement d'un animal géant qui dormait la bouche ouverte et bavait. Ils envoyaient l'écume blanche qui progressait et aussitôt après repartait.
« La marée est basse !» commenta Solario.
Le paysage n'en était pas moins sublime. Il s'ouvrait devant eux à l'infini dans d'irréelles nuances de bleu, de rose et de vert. Ils avaient appris dans leur cours de géographie que la Terre était ronde, mais ils étaient prêts à jurer le contraire, tant ce mélange d'eau, de sable, d'herbes mouillées et de ciel semblait s'étendre à perte de vue. Un décor d'une platitude absolue. Même en se concentrant et en plissant les yeux face au soleil rasant, il était impossible de distinguer où s'arrêtait la mer, où commençait le reste de l'univers, à croire que l'horizon n'était qu'un précipice où l'eau des océans se déversait en cascade sur les autres planètes. Les marins cherchèrent des points de repère dans ce décor aussi beau qu'inquiétant. Dans la brume, au loin, ils devinèrent la silhouette d'un pont. Plus près d'eux, sur leur gauche, des falaises de craie s'élevaient. « À bâbord !» insistait Solario. « On dit à bâbord !»«
Droit devant !»
cria Agnel. Il avait pris l'habitude, avant de monter dans la hune, de tremper ses mains dans le seau où l'on stockait les poissons pêchés. Une fois grimpé au sommet du mât, il les agitait pour attirer les mouettes. Généralement, deux ou trois oiseaux se laissaient apprivoiser, mais cette fois, c'était une volière entière qui entourait Agnel, tel un essaim d'abeilles géantes prêtes à crever les voiles de leur bec. Heureusement, elles comprirent rapidement que l'étrange animal perché n'avait rien à manger, et elles piquèrent en rase-motte vers le pont du bateau. Des moulinets de bras, agités par les marins surexcités, suffirent à les disperser, mais elles continuèrent de voltiger autour du bateau en poussant des cris stridents comme aucun des ados n'en avait jamais entendu. C'était ça, le monde inconnu. Beau, bruyant, joyeux et salé. Leonarda noircissait et bleuissait des pages à la volée, les traînées d'oiseaux, les morsures de vagues, les dégradés d'azur.
« Non ! Tourne ! Tribord ! Tribord !»
hurla soudain Agnel depuis sa vigie. Brasa s'arc-bouta sur sa barre et vira. L'albatros fit une embardée qui déséquilibra les marins.
« Banc de sable droit devant !»
s'égosilla l'ado-oiseau perché en haut du grand mât. Solario délaissa son carnet, grimpa sur la proue et confirma. La mer continuait de se retirer, comme si elle fuyait devant le voilier, ne laissant derrière elle que des lacs dont on devinait la faible profondeur aux nuances de bleu et aux langues de sable apparentes. Pas question de s'échouer.
« À bâbord, toutes !»
indiqua Solario. Tous les enfants se précipitèrent vers le côté gauche du bateau alors que Cléa et Solveig manœuvraient les voiles. Ils évitèrent de peu de s'enliser. Ils sentirent la coque de l'albatros racler le fond de la mer, crisser sur du gravier. Mais ils étaient passés.
« Il faut s'amarrer !» suggéra Haussmann qui consultait sa carte. « Pour se mettre à l'abri, on attendra que la marée remonte pour continuer !»
Il pointa du doigt la rive opposée, toujours à tribord, où la mer paraissait plus profonde, mais le courant particulièrement fort. L'albatros tanguait. Au loin, on apercevait un phare surplomber la falaise et, juste en dessous, une immense maison blanche, construite pour que ses occupants bénéficient de la vue panoramique sur l'estuaire. L'albatros tangua une dernière fois. Des mouettes plus audacieuses tentèrent une nouvelle attaque sur le pont et en sortirent victorieuses, une dizaine de carpes et d'anguilles coincées dans leur bec. Plus personne ne prêtait attention à elles. Tous, marins, soldats, pilotes, explorateurs, peintres, vigies, s'étaient arrêtés. Des formes bougeaient dans le jardin fleuri, devant la Maison Blanche. Dans un premier réflexe, ils essayèrent de se convaincre qu'il s'agissait de moutons, de chèvres ou de gros chiens? Impossible. Un mouton, une chèvre ou un chien ne se tiennent pas debout. Aucun animal ne se tient debout. Sauf un.